France Inter. Musicien autodidacte, compositeur de musique de film et leader du groupe Forever Pavot, Émile Sornin a étudié le cinéma puis exercé comme monteur et réalisateur de clips vidéo en faisant de la musique en parallèle. Membre de différents groupes à l'adolescence, il fit partie de la formation Haroun Tazieff, influencé par Pink Floyd, car il ne s'agit évidemment pas d'un célèbre vulcanologue qui, en dehors des théories complotistes, ne sont eux pas formés par des musiciens. Bref, Émile Sornin jouait du clavier dans Haroun Tazieff. En 2012, son groupe de pop-rock progressif Forever Pavot vient au monde et notre invité continue le clavier, tout en donnant parfois sa voix à entendre, bien qu'il ait commencé la musique par la batterie et ne se considère pas comme un chanteur. Christophe Colomb, le premier disque autoproduit, fut distribué gratuitement avec des chocolats, paraît-il. Le premier album non autoproduit Rhapsode, sorti chez Born Bad Records, où suivirent Le Bon Coin Forever, La Pantoufle et L'Idiophone. Mais ne croyez pas que celui qui dit ne pas aimer travailler s'est cantonné à cela. Il a aussi réalisé des clips pour le rappeur Didier Rascal ou le groupe Al J, a collaboré à un album avec le rappeur américain XP de Marksman et a été arrangeur avec Sébastien sur l'album Rest de Charlotte Gainsbourg. Il a aussi composé les bandes originales de Babysitter et Simple comme Sylvain de Monia Chokri et celle du film De nos frères blessés d'Elie Cisterne. Le nouvel album de Forever Pavot s'intitule Melchior Volume 1. Il est aussi paru chez Born Bad Records. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Émile Sornin.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Oh, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a enthousiasmé ? Il y a quelques jours, je suis allé voir mon fils qui donnait un concert. Mon fils joue du trombone. Et avec son conservatoire, ils étaient une trentaine de musiciens, des cuivres exclusivement, si je me trompe pas. Et ils ont joué un répertoire des thèmes de Noël, et c'était très sympa, très mignon. Il y avait des enfants très jeunes qui jouaient, c'était très fragile et très beau.
Alors justement, en parlant d'enfants, vous étiez un enfant très timide.
Ouais, je suis toujours un adulte très timide.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
Comment vous faites pour monter sur scène et...
Monter sur scène, c'est pas le plus compliqué, étonnamment.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué ?
Bah, peut-être ce qu'on est en train de faire là, par exemple. Ouais, c'est pas simple, ouais, c'est un truc, c'est pas évident pour moi, ouais.
Vous devez vous faire violence ?
Un petit peu, et en même temps, c'est toujours intéressant, parce que j'apprends des choses, on m'apprend des choses sur ce que je fais, donc c'est toujours un chouette.
Non, vous inquiétez pas, j'ai rien à vous apprendre. Mais... Vous aviez des groupes de musique quand vous étiez adolescent, mais vous imaginiez, initialement, pas spécialement musicien, plutôt ingénieur du son.
Exactement, ouais, ouais. C'était ça que je voulais faire quand j'étais au collège, parce que musicien, ça me paraissait impossible. Et le seul truc qui me paraissait faisable, c'était d'être ingénieur et d'enregistrer des groupes. Donc c'était la première chose qui m'est venue à l'esprit, ouais.
Il paraît que vous souffrez de discopathie, et on pense au disque ou au disco, mais c'est pas ça du tout.
Comment vous savez ça ?
Mais parce que j'ai tout lu. Non, j'ai une très bonne équipe, et j'ai une très bonne doc, et j'ai tout lu.
Ouais, bah ouais.
Et j'habite chez vous, parce que vous ne savez pas.
Ah, la discopathie, j'ai pas à qui j'en ai parlé. Parce que
moi non plus. Peut-être votre psy.
Bah oui, j'ai 40 ans et j'ai des problèmes de dos, quoi. Mais ouais, c'est intéressant.
Donc c'est les disques vertébraux.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, en ce moment, ça va plutôt bien, donc on va pas essayer de me porter trop la poisse.
Bon, d'accord. Alors, le groupe Haroun Tazieff et ensuite le nom du disque autoproduit de Forever Pavot, Christophe Colomb. J'aimerais savoir ce que vous pensez d'Haroun Tazieff et de Christophe Colomb.
Pas grand chose, en fait, c'est plutôt des blagues, en fait, plus que chose. Christophe Colomb, si je me rappelle bien, il y a un morceau, donc de ce 45 tours, où il y a des chœurs, c'est très arrangé comme ça, très presque chevaleresque, il y a un truc un peu comme le morceau de Christophe Colomb qu'on connaît. Je crois que c'est mon ami Arnaud Sèche qui faisait de la flûte dans les premiers lives de Forever Pavot qui m'avait dit, ça me fait penser à Christophe Colomb et ça m'a fait rire. C'est souvent des blagues, hein, c'est comme le nom Forever Pavot,
oui.
c'est quand même des choses qui
racontez-le
viennent...
parce que vous avez mal lu sur une trousse.
Alors, Les tout débuts de Forever Pavot, c'était avec un de mes copains qui chantait. Et un jour, il est venu chez moi pendant qu'on composait et il avait une trousse d'écolier. Et souvent, sur les trousses d'écolier ou sur les sacs à dos, dans notre adolescence, on écrit des slogans,
Otipex,
exactement. Et il y avait un Flower Power très mal écrit. J'ai lu Forever Pavot, ça nous a fait beaucoup rire et je me suis dit, je vais garder ce truc-là. Mais ouais, j'aime bien l'humour, hein. Je crois que c'est ça qui définit un peu le truc.
Je crois que l'humour vous aime bien aussi.
La 20e heure, Eva Bester sur France Inter.
Émile Sornin, votre dernier album avec Forever Pavot s'appelle Melchior Volume 1 et je crois que vous avez fabriqué un automate avec Jonas Œuvremer.
C'est exactement ça, ouais. Ouais, un automate robot. J'aime bien dire que voilà, c'est un mélange entre un automate et un robot. Qui j'ai eu cette idée de ça. C'était un petit moment que j'avais envie de faire une bêtise comme ça et je l'ai proposé à mon pote Jonas qui est un grand bricoleur. Parce que moi, je fais semblant, mais je suis pas un très bon bricoleur. Et voilà, il m'a aidé à réaliser ce fantasme de fabriquer ce robot. Et ce robot a été là tout au long de l'écriture et la composition de ce nouvel album. Il a écrit les paroles. On a composé à quatre mains ensemble.
Et il bouge.
Il bouge, bien sûr. Il parle, il chante.
Il paraît qu'il fait la promo.
Et il fait beaucoup la promo et ça m'arrange beaucoup.
C'est vous Melchior ?
Non, c'est pas moi Melchior. Melchior est une personne réelle.
Le robot ?
Oui, le robot.
Vous dites n'importe quoi. Melchior comme le roi mage ?
Non, même pas encore. C'est un truc, il n'y a pas vraiment de sens. Je trouve que Melchior, c'est un prénom de robot.
Mais, ah bon, peut-être,
ouais, je trouve.
C'est beau en tout cas.
Ouais, je trouve que c'est joli, ouais.
Alors, je crois qu'il sera en invité surprise pendant vos concerts.
C'est pas vraiment un invité surprise, c'est vraiment un membre à part entière. Il est avec
ah oui,
nous.
C'est vrai. Ouais, c'est vous qui l'accompagnez finalement.
C'est exactement, ouais, c'est lui le leader maintenant du groupe. Hein. Il vient avec nous, il est avec nous dans le camion pendant la tournée, il sera sur tous les
il
concerts.
Il fait les courses ?
Il fait pas les courses, non. Non, parce qu'en fait, il reste quand même souvent dans mon studio, la nuit, le jour. Et par contre, il est un petit peu stressé par la tournée qui arrive parce qu'il a jamais, il a jamais joué devant des gens en fait.
Hein. Ça il est sain ? Il se drogue ?
Non, il est assez sain, ouais, pour l'instant. Je sais pas comment il va évoluer,
ah bah
on
oui,
sait
parce
pas.
Qu'en hein, plus, ça, c'est des rockstars. Le succès, oui.
C'est ça, on sait pas comment ça peut évoluer tout ça.
En effet, c'est toujours très risqué. Alors, il y a une phrase que j'ai lue à propos de ce disque sur le site de Born Bad Records. Mmh. Et comme je ne suis pas une zikos, dit-on quand on est ringard, j'ai besoin de votre aide parce que je ne la comprends pas.
Dites-moi.
Donc, ce disque connecte son dernier disque, l'idiophone, à une nouvelle artère nettement plus fat. P-H-A-T. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Fat, je pense que ça vient peut-être du côté électronique que j'ai essayé de développer, que Melchior m'a poussé à faire sur ce disque-là. L'idiophone était un disque très arrangé, avec un côté très élégant, années 60-70, et j'avais déjà fait un peu ça depuis longtemps. En fait, je tournais un petit peu en rond avec cette recette, et j'avais besoin de quelque chose pour me stimuler, et Melchior m'a poussé dans une direction beaucoup plus électronique. Je pense que c'est ça que ça veut dire.
Vous entretenez souvent avec Melchior ?
Ah, tout le temps, ouais, tous les jours, mais il est avec moi tous les matins, tous les après-midi, on discute ensemble, on travaille ensemble, on compose encore ensemble, parce que c'est une aventure, j'espère, qui va durer. En
plus. Et sur quoi portait votre dernière conversation ?
Ce matin, on a parlé des yaourts nature.
Alors, qu'en est-il ?
Moi, j'ai mis beaucoup de temps à aimer les yaourts nature,
oui,
parce que j'aime le sucre, et lui a tendance à me dire que c'est plutôt bon pour le corps, mais voilà, c'est, on parle de tout et de rien, quoi.
Quelle texture préférez-vous, les yaourts nature, plutôt légers, aériens ou plutôt comme des yaourts grecs épais, volumineux ?
J'aime bien le skyr.
Ah oui, le skyr c'est encore plus onctueux.
Enfin, onctueux, non, pas,
épais. Épais,
ouais.
Oui. Très bien. Vous avez une bonne santé ?
Ça va, à part ma discopathie, comme vous avez pu le dire
oui.
En début d'interview.
Vous avez été fortement influencé par le cinéma. Je crois que vous aimez beaucoup les bandes originales de Ennio Morricone, par exemple, ou ouais. François de Roubaix. Et d'ailleurs, vous êtes allé à Paris pour faire des études de cinéma, un BTS audiovisuel. Vous avez été monteur pendant plusieurs années et réalisateur de clips vidéo.
Ouais.
Comment ça s'est fait, votre arrivée à la musique ? Parce que c'était dès les études.
Bah, c'était en parallèle. J'ai fait même de la musique avant de faire de la vidéo. Je fais de la musique depuis que je suis adolescent. Et j'ai toujours fait les deux en même temps, et ça s'est toujours l'un et l'autre s'est toujours nourri, puisque je faisais des clips pour mes copains quand j'étais ado, et puis j'ai toujours continué en fait. C'est juste que pendant mes études j'ai choisi de m'orienter vers l'image et le montage, mais j'ai toujours continué à faire des clips pour des copains, et c'est ça qui m'a amené ensuite à être repéré par un producteur et à faire du clip, quoi.
Alors votre grand-père était dans le textile, mais il faisait quand même des films de fiction en 16 mm.
Ouais.
Votre grand frère était comédien et réalisateur, il vous a fait découvrir des films, et surtout celle qui vous a fait découvrir le plus de films, c'est votre mère.
Ouais, c'est vrai.
Vous emmenant au cinéma, est-ce que vous avez des souvenirs qui vous ont marqué ?
Plein de choses. Les films de Jacques Tati. J'ai souvenir vraiment. J'ai grandi à La Rochelle, il y avait le Festival du cinéma. Je me rappelle de l'année où il y a eu l'année Jacques Tati, et où j'ai pu découvrir tout le cinéma de Jacques Tati. Ça a été très important pour moi. Le burlesque, en règle générale, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien sur moi. J'aime le gag, j'aime la farce. Et donc, Tati, il n'y avait pas que le cinéma. Je viens de repenser à. J'ai vu plein de spectacles dans cette salle géniale qui s'appelle La Coursive à La Rochelle, où j'ai pu voir. Je me rappelle, je suis assez nostalgique de cette époque-là d'ailleurs. les spectacles de Jérôme Deschamps qui sont aussi imprégnés de burlesque, qui empruntent aussi énormément à Tati, je trouve. Et donc l'époque des Deschiens, tout ça, c'est tout ça est mélangé un peu à cette époque, les années 2000, quoi. Et ça m'a beaucoup nourri. Je sens que dans ma musique aussi, ça ressort aussi un petit peu.
Lorsque vous rentrez dans une pâtisserie ou lorsque vous êtes invité et que quelqu'un fait un effort pour vous inviter à dîner et que cette personne a fait encore un effort pour vous faire un petit gâteau très bien feuilleté, ce que j'essaie de faire ma pâtisserie avec de la bonne farine et afin que mon feuilleté soit de qualité, eh bien, je ne demanderai jamais à la maîtresse de maison à quelle heure elle s'est levée pour faire ce gâteau. Je lui fais un petit signe en disant oui, je trouvais ça très bon, ou je peux dire non, j'aime pas tellement parce que j'ai trouvé la pâte un peu trop dure. Bon, mais notre métier, nous, est d'essayer de distraire. Il s'arrête là, ça ne va pas plus loin, on parle de messages, on parle d'un tas de choses. Bon, vous savez, aujourd'hui, on décortique le cinéma, on fait des opérations, et puis, bon, bien, tout ça, d'accord, mais en fin de compte, le temps, que ce soit en musique ou en peinture, en littérature, tout, se charge de remettre un petit peu tout ça, quoi.
Eh bien, Émile Sornin, on entend l'une de vos plus grandes influences, Jacques Tati, au micro de Joël Vitol sur France Culture en 71. Donc, il a été très important pour vous, ses héritiers aussi, ouais. Comme Jérôme Deschamps que vous avez cité tout à l'heure. Et il y a aussi Fiona Gordon et Dominique Abel.
Oui, bah oui, bien sûr, je voulais en parler aussi, parce que c'est la continuité de tout ça. Quand j'ai découvert ces films-là, ça m'a rappelé que je venais de ce cinéma-là, enfin, en tout cas qui m'a vraiment porté quand j'étais adolescent. Et,
donc La Fée, La Husband.
Ouais, exactement. Ouais. J'ai pas vu le dernier, L'Étoile, je crois, ou quelque chose comme ça, j'ai pas le nom en tête. Et c'est des films que je regarde assez régulièrement, que j'aime bien montrer aussi à mon fils, même s'il est pas encore trop sensible à ce cinéma-là. Mais ouais, c'est quelque chose qui me parle vraiment, le gag, la farce. J'aime bien voir les ficelles aussi de tous ces gadgets, ces farces qu'on peut voir dans ces films.
Alors vous avez imaginé plusieurs albums comme des films imaginaires, et vous aimeriez bien d'ailleurs un jour faire de la fiction.
En fait, je suis un peu partagé pour ça, parce que j'y repense. En fait, j'ai fait beaucoup de vidéos et puis j'ai mis un peu de côté pour me concentrer sur la musique. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire surtout de la musique de film et mes albums. Peut-être que ça reviendra un jour. Là, en ce moment, typiquement, j'y pense pas tellement. C'est pas un truc. Mais c'est vrai que cette nouvelle idée d'avoir fabriqué un robot, Melchior, ça c'était aussi un prétexte pour m'amuser sur les réseaux sociaux et refaire des vidéos, refaire des clips. Alors je suis entouré de d'autres réalisateurs qui m'aident beaucoup, et peut-être que ça mènera à une fiction. J'en ai aucune idée. Je me suis pas posé trop la question, en fait, on va dire.
En tout cas, ça a commencé aussi par des sortes de jeux, votre rapport à la musique, puisque je crois que vous sampliez les disques de vos parents.
Ouais, c'est même comme ça que j'en suis venu à la musique que je fais aujourd'hui. J'ai écouté beaucoup de hip-hop quand j'étais adolescent, et je me suis mis à vouloir en faire, donc à composer des beats avec des samples, à chercher des disques, donc à piquer les vinyles de mes parents. Et ensuite, quand je suis arrivé à Paris, je me suis mis à diguer, comme on dit.
Aller, qu'est-ce que ça veut dire, diguer?
C'est aller chez les disquaires et Opus et chercher des disques et trouver la...
Vous êtes un digueur.
Ouais, plus vraiment aujourd'hui. Hein,
vous êtes un sacré digueur.
Je suis un sacré digueur. Non, plus vraiment aujourd'hui, parce que c'est un truc que j'ai fait beaucoup quand je suis arrivé à Paris, quand j'avais 20 ans. Et maintenant, j'en ai 40, donc je passe à autre chose.
Voilà, mais... la vie est finie. J'ai le même âge que vous.
Mais en tout cas, ça m'a ouvert à découvrir énormément de musique. Le sample m'a fait découvrir le jazz, la musique progressive et surtout la musique de film. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était la musique dramatique, les BO de films italiennes et françaises. Et ça m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, c'est certain, quoi.
Et justement, les BO des films italiens et français ont quelque chose qu'on retrouve dans vos albums, c'est-à-dire une sorte de nostalgie et de mélancolie heureuse et douce en même temps.
Ouais, je pense que je sais pas très bien d'où ça vient, mais la musique mélancolique me bouleverse et j'aime la jouer. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à faire autre chose. Souvent,
triste sur vos musiques, on est bercé, mélancolie douce.
Oui, peut-être.
Vous êtes dans une vraie mélancolie quand vous les composez?
Non, pas tellement, je crois pas. En tout cas, jouer de la musique mélancolique me fait énormément de bien. Et j'ai un peu de mal à faire autre chose, à faire de la musique moins mélancolique parfois. J'essaye, mais c'est pas mon fort, je crois.
Le premier album de votre groupe fondé en 2012, Forever Pavot, Émile Sornin, c'était Rhapsode. Et là, on entend le titre homonyme. Alors pour vous, ça c'est mélancolique ?
Ouais, ouais. Bah oui, oui.
Vous sentez quand même la douceur avec le champ des possibles qui reste ouvert ?
Oui, il y a un peu de ça quand même. Il y a... Oui, il y a un truc très mélancolique et en même temps il y a de l'espoir. J'espère que ouais, que ma musique aspire à ça en tout cas.
On n'est pas sur un lit de mort.
Non, non. Et pourtant, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans la musique aussi, c'est la musique qui est terrorisante. J'ai aussi une passion pour la musique de films d'horreur, les films dramatiques, des musiques qui ont une tendance à être un peu terrifiantes, quoi.
Eh bien, c'est drôle parce que j'ai entendu quelques échos de Carpenter sur certains de vos morceaux.
Ouais.
Parce que Carpenter fait les musiques de ses
ouais,
films.
Carrément. Ouais. Bah oui, il y a certains de ses films qui m'ont bouleversé. Il y a un film, qui s'appelle Jack Burton dans les griffes du mandarin.
Ah oui, qu'est-ce que c'est nul, mais il y a ma réplique préférée dedans.
C'est pas nul, non.
Ah si, c'est vraiment un navet.
Oui. Mais bref, moi je trouve qu'il a un charme incroyable.
C'est vrai.
Il m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent. Ce film, c'est un film que j'avais en VHS que je regardais en boucle avec mon meilleur ami d'enfance. Et il m'a beaucoup marqué. Il m'a même influencé sur certains clips que j'ai pu faire après dans tu vous parlais tout à l'heure d'un clip de Dizzy Rascal, alors j'ai plus le nom du titre, mais il y a un clip qui est ouvertement influencé par ce film là.
Bonjour monsieur. Ça vous dérange pas qu'on vous filme? Ça vous embête pas? Vous êtes monsieur Gauthier, c'est ça? Enchanté, alors je m'appelle Émile. Vous pouvez me parler un petit peu de ce clavier, ça vous appartenait à vous,
c'était... Non, c'était au beau-père à mon mari.
D'accord.
Il faisait des balles avec ça. Alors il a eu beaucoup de disques et il s'accompagnait avec.
D'accord.
Et nous, ça fait une dizaine d'années que je l'ai, mm-hmm. Et il était au fond d'une armoire.
D'accord.
Alors je me suis amusée un petit peu avec, mais je ne suis pas musicienne.
Vous jouez un petit peu...
Oui, mais bon, je ne suis pas musicienne.
On entend un extrait du documentaire qui a été fait à l'occasion du projet autour de l'album Le Bon Coin Forever. Émile Sornin, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Ouais, bien sûr. C'est marrant parce qu'on a fêté il y a pas longtemps les 10 ans de ce documentaire. Enfin, on l'a pas vraiment fêté, on s'est appelé avec les copains, mais c'est à l'initiative du Confort Moderne, qui est une salle de concert que j'aime beaucoup à Poitiers, qui un jour me contacte, et c'est Guillaume Chiron qui travaillait là-bas à l'époque, qui me propose de faire une expérience qui est de répondre à des annonces Le Bon Coin pour des instruments un peu étranges, d'aller chez les gens et de ne pas acheter les instruments, mais de rester un peu chez les gens, de discuter avec eux, de comprendre d'où vient cet instrument un peu étrange ou singulier, et au fur et à mesure des rencontres, de composer des morceaux chez les gens. Donc je venais avec une petite carte son, un micro, et j'enregistrais des boucles, j'enregistrais des pistes comme ça, et puis au fur et à mesure des rencontres, ça créait des morceaux, et on en a fait un documentaire qui est sur YouTube, qui est visionnable, et aussi un petit 45 tours qui est sorti chez Born Bad.
Et alors, vous avez joué sur une guitare à trois manches,
ouais.
Qui vous a beaucoup surpris, et aussi sur une épinette. Vous en rêviez, qu'est-ce que c'est qu'une épinette ?
Ouais, j'ai toujours fantasmé le clavecin. C'est un instrument qui a un effet sur moi depuis toujours.
Quel effet ?
Je sais pas, justement, il y a le côté un peu terrorisant. Il y a un truc dont je parlais tout à l'heure, les BO de films italiennes, il y en a beaucoup dans la musique de films d'horreur aussi. C'est un instrument qu'on retrouve très souvent. Et j'en avais jamais vu pour de vrai, j'en avais jamais joué. J'avais des samples chez moi où je bidouillais un petit peu pour faire sort comme si c'était un clavecin. Mais j'en avais jamais vu de mes yeux. Et en fait, l'épinette, c'est un petit instrument. Je veux pas dire de bêtises parce que je ne connais pas non plus. Je ne connais pas très bien, mais c'est un petit instrument de chambre. C'est plus petit qu'un clavecin, mais c'est un instrument où les cordes sont pincées. Et il y a un son comme ça, très cristallin. C'est un son que j'adore. Et donc, j'étais très ému parce qu'on arrivait chez ce monsieur qui était un collectionneur de violons. Il fabriquait des violons de la Première Guerre mondiale, je crois. Ce monsieur était très touchant et j'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'il me racontait parce que je voyais derrière cet instrument, je me disais mais c'est quoi ce petit clavecin, et puis au bout d'un moment il me fait mais vous voulez essayer, j'ai fait c'est quoi, et il m'a expliqué c'est une épinette, et je me suis mis à jouer dessus et un mois plus tard j'en achetais une tellement ça m'a transformé quoi.
Alors, vous connaissez In the Air Tonight de Phil Collins ?
Oui, ouais.
Oui, je pense que oui.
Oui.
Et alors, dedans, il y a la boîte à rythme Roland CR78. Vous avez joué dessus et j'ai appris en préparant l'émission que c'était un instrument hors de prix.
Oui, ça justement, c'est un des instruments que j'ai pas pu m'acheter par la suite, mais que j'ai pu tester pendant cette expérience du Bon Coin Forever, qui est ouais, une boîte à rythme mythique, qui a vraiment des patterns et des rythmes bien précis, bien typiques de cette époque-là, qui sont très chouettes. Mais oui, non, ça coûte une fortune. On attend que ce soit réédité par des marques nouvelles, mais c'est pas encore le cas, je crois.
Le Beefsteak sur l'album La Pantoufle, l'un des titres de cet album, La Belle Affaire a été utilisé dans une campagne de publicité pour une grande marque de vêtements, de sport. Est-ce que vous avez été flatté ?
Ouais, c'est un peu spécial parce que c'est un morceau qui est très important pour moi parce que c'est une berceuse que j'ai écrite pour mon fils qui s'appelle Abel. Et donc ça a été... En plus, c'est un morceau qui date quand même, donc la campagne de pub c'était cet été, si je dis pas de bêtises.
2025.
Donc c'est toujours amusant, voilà, c'est un morceau qui a 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un morceau qui, je crois que c'est un des morceaux qui a été le plus écouté dans ma discographie, en tout cas sur les plateformes Spotify et compagnie. Je n'explique pas pourquoi, mais ouais, c'est un de mes morceaux préférés qu'on joue encore aujourd'hui. On l'a réarrangé d'ailleurs de manière un peu plus électronique là sur le prochain live. Mais c'est un morceau qui est important pour moi.
Vous vous considérez plus comme sensible que comme intellectuel et vous êtes autodidacte. Donc vous dites que c'est à la fois une fierté et parfois un handicap, notamment quand vous devez travailler avec d'autres gens puisque vous devez compter les notes.
Ouais, c'est encore plus compliqué que ça. Ça m'est arrivé d'être dans des situations un petit peu gênantes où les gens sont persuadés que je connais la théorie de la musique et bon, parfois c'est un peu. Il faudrait que je m'y mette en fait. J'ai un espèce de blocage.
Mais vous avez peur que ce soit moins ludique si vous êtes, devenez plus lettré.
Je sais pas, ludique. En tout cas, j'aime bien avoir une forme de naïveté dans tout ce que je fais et je pense que c'est précieux, mais je pense que c'est une fausse excuse. Je pense que ça, juste d'apprendre la musique, apprendre ce langage-là, me permettrait de partager un peu. Plus, il y a aussi ça, faudrait que je me pose la question, mais comme je suis quelqu'un de très solitaire et que j'aime être seul, c'est quelque chose de très égocentrique en fait, ce que je fais. C'est peut-être pour ne pas m'ouvrir aux autres, je sais pas.
Alors vous avez un groupe pourtant, c'est un peu vos meilleurs amis qui
sont
dedans.
Oui, carrément, mais en fait, ils jouent ma musique. Et
vos enfants ?
Et mon fils joue de la musique, oui. Lui, alors pour le coup, je l'ai mis au conservatoire.
Et vous le supportez, oui, pour qu'il ne soit pas à la maison.
Non, parce que moi, c'est pas que j'ai pas eu la chance. En tout cas, j'ai eu un peu de notion de solfège rythmique parce que j'ai commencé par la batterie, mais j'ai jamais appris. Je sais pas ce que je joue au piano. Vraiment, les pianistes qui me voient jouer sont hyper étonnés de la manière dont ils sont outrés même parfois de ma manière d'articuler mes doigts sur le piano.
Vous composez à l'oreille uniquement, mais est-ce que vous savez, par exemple, visuellement que cette touche fait tel son ?
Ah, mais c'est ça, c'est-à-dire que les accords que je joue, pour moi, c'est des formes, c'est vraiment l'araignée, l'escargot, ce que je fais avec mes doigts, quoi. C'est vraiment c'est des couleurs, mais vraiment, si quelqu'un me dit, je suis incapable de dire quel type d'accord je joue, vraiment, c'est assez, parfois handicapant. Saisie.
véritable secret.
Le morceau UFO de Forever Pavot en featuring avec L'Inspector.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Émile Sornin, on vient d'entendre un titre extrait de votre album Melchior volume 1, enfin l'album de Forever Pavot. Et déjà, je voulais savoir si vous croyez aux soucoupes volantes.
Non.
D'accord. Et ensuite, est-ce que si je vous dis Stéréo Total pour le côté un peu blasé et Élie Jacquenot, ça vous parle?
Stéréo Total, c'est quoi? Rappelez-moi, c'est honteux.
Ah bah, je peux pas vous chanter ce qu'ils chantent, mais ils chantent en allemand et en français. Et ils font des reprises et c'est à la fois drôle et blasé et mélancolique. Et...
Ouais, ok. Je peux pas rebondir là-dessus, mais sur Élie Jacquenot, oui, même si j'ai pas une grosse connaissance. En fait, j'ai pas une grande connaissance de la musique des années 80. Élie Jacquenot, je connais évidemment les tubes j'apprécie, mais ça fait pas tellement partie de ma culture musicale. J'essaie de m'y mettre un peu plus de plus en plus, en fait, aux années 80.
Est-ce que vous vous mettez de plus en plus au chant en français? Parce que l'album est en majorité en anglais, il y a un titre en français tout de même, mais ça vous gêne, comme vous venez de la musique punk et métal, ça vous gêne la notion de chanson française. Mais vous vous rendez compte en même temps que c'est vous qui le dites, puéril de votre part.
Je sais pas, alors ça j'ai sans doute dit ça pendant la période de l'Idiophone, l'album précédent, qui était vraiment exclusivement en français, où c'était beaucoup plus chanson. Et j'ai un peu eu l'impression d'être arrivé au bout de ce que j'avais envie de faire là-dedans. Et c'est vrai que je dis ça aussi parce que j'ai pas une grande culture de la chanson française, j'en ai pas beaucoup écouté, voire pas du tout. Et en fait, là aussi, sur ce nouvel album, je suis pas le seul à avoir décidé, c'est Melchior qui a pris le lead sur tout ça et qui, lui, déteste la chanson française.
Melchior
et...
le robot.
Melchior le robot. Et c'est lui qui a chanté les trois quarts des chansons, où on a nos deux voix qui se mélangent parfois.
Oui, donc c'est pas votre voix vocodée du tout, c'est vraiment Melchior qui chante.
C'est les deux. On va dire que c'est les deux. Il y a ma voix normale parfois, mais la plupart du temps, c'est Melchior qui chante et L'Inspector qui est venu chanter une chanson en français, sinon les trois quarts du disque sont en anglais, ouais.
Là, Emile Sornin, c'est votre morceau Patch 1985. Alors bon, bah moi là, je pense à du Kraftwerk sous LSD.
Ah, ouais, il y a un peu de ça, bien sûr. Évidemment, on a beaucoup parlé de ces artistes avec, avec Melchior. Kraftwerk,
Melchior
pareil,
le robot, je le rappelle.
Encore une fois, oui. Melchior est fan de Kraftwerk,
ah oui,
plus que moi d'avant.
Ah oui, vous n'aimez pas trop.
Si, si, j'aime bien, mais c'est pas fait partie de mes grandes références, on va dire. C'est surtout Melchior qui m'a dit, écoute ça, c'est génial. Il faut qu'on fasse des trucs un peu plus. Et en fait, Melchior m'a poussé à faire des trucs avec moins de couches. J'avais tendance à faire de la musique avec énormément d'accords, avec énormément d'arrangements, et lui m'a vraiment poussé dans une direction beaucoup plus minimaliste. Et notamment ce morceau qu'on écoute, c'est vraiment dans cette direction-là, un truc plus épuré, plus direct, plus clair, quoi.
Donc c'est un peu votre maître zen, si je comprends bien.
Oui, ma muse aussi, quelque part.
Bah oui, beaucoup de choses. Je crois que votre premier concert, c'était au loto du collège.
Putain. Ouais, oh là là, ça remonte il y a très longtemps, ouais, bien sûr. Ah ouais, je m'en rappelle très bien, parce que j'étais terrorisé un an avant de le faire, ce concert.
Un an avant?
Mais oui, oui.
Alors
ouais.
Là, waouh, j'ai trouvé mon maître.
Non, je me rappelle, c'est hyper impressionnant de jouer devant des gens.
Bah
et c'était,
oui.
J'avais un petit groupe au collège avec mes copains et on faisait des reprises. Alors on faisait du Nirvana, du Rage Against the Machine, des morceaux de reggae aussi. Et on bossait avec un éducateur jeunesse dans les collèges qui aide les jeunes à faire de la musique et tout ça. Et il nous avait proposé à la fin de l'année, les gars, on fait un concert au loto de Lumeau à côté de La Rochelle. Et je me rappelle très bien de ce concert. Ouais, j'étais terrorisé avant de monter sur scène. Ça va mieux, beaucoup mieux aujourd'hui, mais ouais, j'étais très impressionné. Ouais.
Là, on entend le morceau God Boat. Il est très onirique, lyrique, romantique. L'êtes-vous?
Oui, je pense l'être un peu quand même, ouais. C'est vrai que typiquement ce morceau-là, c'était, je l'imaginais comme une balade, plutôt une balade années 60, 60s, et Melchior a encore mis son grain de sel là-dedans et il m'a dit non, viens, on fait un truc plus électronique, donc on a gardé cette rythmique un peu balade et un peu mignonne comme ça.
Il s'oppose à vous beaucoup, hein, Melchior.
Ouais, mais en fait c'est mon garde-fou et en même temps il est là, c'est lui qui a mis le cahier des charges en fait, c'est lui qui m'a dit ok, stop le clavecin, stop le piano, les cordes, les arrangements, on part dans une direction plus minimaliste, ça pour changer un peu, et c'est hyper stimulant en fait, parce que j'avais un peu l'impression de tourner en rond depuis des années, d'avoir un peu la même recette, et là en fait c'est un nouveau monde qui s'ouvre, c'est comme si j'avais un nouveau groupe. C'est pour ça que je dis souvent aussi que j'ai l'impression d'avoir mon premier groupe comme quand j'avais 14 ans. C'est hyper stimulant et hyper excitant, quoi, de tout recommencer comme ça à zéro avec quelqu'un.
While humming a tune, stay in front of the crowd, then lost in the sound.
Là, on entend le morceau Skyway, Emile Sornin. Il y a une rythmique un peu hip-hop,
ouais.
Et des bruits inattendus comme accidentels.
Ouais.
Comment vous les choisissez?
Un peu comme quand je sample. C'est marrant que vous parliez de hip-hop, parce que c'est ce morceau, en fait, j'ai bien envie d'en parler parce que c'est un hommage, voire presque même une reprise d'un morceau d'un artiste français qui s'appelle Pierre Harvey, qui est un compositeur, alors qu'il a, je crois pas qu'il ait fait de musique de film, mais il a fait ce qu'on appelle la librairie musicale, musique d'illustration sonore dans les années 70, même un peu avant, qui était la musique au maître qu'on faisait pour, qui était utilisée pour les jingles de radio, pour les courts-métrages, pour voilà, de la musique utilisée dans les documentaires et tout ça. Et c'est un artiste qui est pas très connu, que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai retourné un petit peu ce principe du sample. Je me suis dit non, je vais en faire un morceau. Le morceau original, il n'y a pas de chant, donc j'en ai fait une chanson comme ça. Et moi, je travaille vraiment comme un producteur de hip-hop. J'ai un beat, je fais des boucles et je m'amuse à mettre des sons dans les bandes magnétiques pour faire pleurer le son comme ça et faire une espèce de technique un peu bizarre. bizarroïde.
Faire pleurer le son.
Ouais. Quand on met un instrument sur une bande et qu'on s'amuse avec la bande et qu'on la bouge comme ça avec le doigt, je dis qu'elle pleure, la bande.
Il est temps de découvrir votre choix musical et évidemment, je pense que c'est un hommage à ma personne. Émile Sornin.
On entend Jean-Jacques Perret.
Oui, le morceau.
Eh ben.
Voilà. Merci, vous ne l'avez pas choisi pour moi, j'imagine.
Pas du tout, je viens de tilter.
C'est vrai, je vous jure, ça... Je me disais, sympa pour une fois qu'un invité...
J'ai pris le morceau le plus populaire de Jean-Jacques Perret. Ce n'est pas mon morceau préféré d'ailleurs, mais c'est le morceau le plus groovy, le plus pop, comme ça, que j'adore. Jean-Jacques Perret, c'est pour moi... c'est vraiment un pionnier de la musique électronique. Il a fait plein d'albums extraordinaires. Il y a un truc, je trouve... hyper burlesque dans sa musique, très enfantin, très ludique aussi. Et voilà, c'est une source d'inspiration pour moi et hyper important. C'est un musicien qui a fait le tour du monde, notamment en présentant un instrument qui est très cher à mon cœur, qui s'appelle l'ondioline, qui est un instrument que j'ai eu la chance d'acquérir il y a quelques années, qui est un instrument extrêmement rare, qui est un peu l'ancêtre du synthétiseur. C'est vraiment une pièce de musée, c'est un instrument à part entière, qui est très singulier, avec des sons très, très typés. Et Jean-Jacques Perret a fait le tour du monde avec cet instrument-là. Il a fait même des plateaux télé dans les années 50, je crois. C'est un instrument qui date des années 40. Et voilà, c'est un hommage à ce grand musicien qui nous a quittés il y a une dizaine d'années. Je le porte, Jean-Jacques Perret, dans mon cœur. Je trouve ça hyper drôle, sa musique, hyper, hyper amusant.
À Alors là, Émile Sornin, c'est le morceau Le robot gentilhomme qu'on entend, et c'est du Lully moderne.
Ouais, c'est ça. J'ai une fascination pour la musique baroque, mais je n'y connais rien, vraiment rien du tout. Et c'est presque un clin d'œil à... Enfin, c'est même pas presque, c'est un clin d'œil à Wendy Carlos, qui était une compositrice qui a fait beaucoup de musique baroque avec des synthétiseurs, notamment où on connaît la BO de Ange Mécanique, mais qui a fait aussi plein d'autres disques hyper intéressants. Et voilà, c'est un truc qui me quitte pas depuis le début. Je crois que même à l'époque de Rhapsody, il y avait déjà ce côté baroque dans ma musique, et le baroque au synthétiseur, ça rend le truc encore plus fort. Je sais pas pourquoi, il y a un truc aussi de l'ordre de quelque chose un peu terrorisant, un peu comme ça, qui flirte avec quelque chose d'étrange, quoi. Je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer, mais je ne connais pas grand chose en musique baroque.
Vous avez facilement peur?
Plus maintenant, mais enfant, oui, j'étais très impressionné très rapidement. Ouais.
Et quels sont vos films d'horreur favoris?
Ouais, ce serait Suspiria, peut-être.
Ah, Suspiria de Dario Argento.
Ouais. Ouais, et la BO aussi.
C'est magnifique.
Et la musique extraordinaire.
C'est Goblin.
C'est Goblin, ouais, exactement.
Ouais, formidable, Goblin. Mm. Vous avez intitulé un titre Olympus, il y a des titres assez rigolos sur tous vos albums. C'est l'habitat des dieux ou l'appareil photo?
J'en ai aucune idée.
Ah bon,
peut-être l'appareil photo. Vous savez, des fois, on fait des morceaux, et il faut enregistrer, il faut mettre un nom et je mets truc qui passe par la tête.
Ça doit être Melchior qui a choisi.
Ouais, je pense que c'est lui d'ailleurs qui a choisi, exactement. On va dire ça. Ouais.
Là, on entend le morceau Shoppers on the Run. C'est celui-là qui m'avait fait penser un peu à Carpenter et aussi à des bruits de jeux vidéo. Puis après, ça devient épique et j'ai l'impression qu'on est dans l'espace. Et puis après, dans un train et on serait filmé par Wes Anderson.
Ouais, bah.
Il se passe beaucoup de choses dans ce morceau.
Il se passe plein de trucs. C'est le morceau le plus 80, en fait. Justement, il y a le côté Carpenter de synthé fin années 70, début 80. Et le côté jeu vidéo, c'est marrant que vous en parlez parce que j'ai eu toute une période en arrivant justement à Paris où j'étais fasciné par tout un courant musical qui s'appelle la chiptune, qui consiste à faire de la musique avec des Game Boy, avec des sons 8 bits. Et j'ai l'impression que c'est en train de revenir, peut-être la crise de la quarantaine ou je ne sais pas, mais c'est un truc qui j'ai envie de m'y remettre un peu, réexplorer toute cette partie-là. Ouais.
Bigre, pourquoi ce titre, Edouard? Pourquoi ce mot et qu'est-ce qu'il veut dire?
Pour la stupéfaction, c'est pas mal. Et il se trouve que les personnages subissent un nombre de revers, de catastrophes. Et puis, c'est aussi un titre pour un spectacle où il n'y a pas de parole.
Mmh.
Donc, qui raconte pas trop, qui juste... Voilà, puisse donner une image du spectacle. Donc je trouve que ça raconte quelque chose.
Émile Sornin, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi de parler du spectacle Bigre de Pierre Guillois et on l'entend en 2015 sur France Culture au micro du merveilleux François Angelier.
Ouais, j'ai choisi ce spectacle. Bah, ça va un peu dans la suite logique de ce que je vous ai dit tout à l'heure de Jérôme Deschamps, de Tati. C'est du spectacle burlesque, c'est de la farce. Donc c'est un spectacle que je suis allé voir il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines avec mon fils et ma compagne. Et ça marche toujours aussi bien, quoi. Il y a un truc, donc c'est un spectacle qui se passe dans les toits de Paris où c'est trois appartements collés les uns à côté des autres. Il se passe plein de trucs, il y a des gags dans tous les sens, des gadgets. Enfin, moi, je sais pas comment expliquer ça. Ça marche parfaitement sur moi. Je consomme quoi à fond.
Une femme sur trois qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie. Genre, à quel moment t'as senti que ton rapport aux femmes est devenu problématique?
Café?
Non.
Un misogyne.
Hein? Qu'est-ce que tu fais?
Je retourne travailler.
Ça se prépare un retour au travail?
Je leur ai écrit cette nuit.
Ta face me dit de quoi?
Ah, c'est parce que je vous ressemble à Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot déguisée en nounou.
On entend la bande-annonce de Babysitter de Monia Chokri. Avec votre musique, Émile Sornin, vous avez aussi fait celle de Simple comme Sylvain. Comment ça se passe la collaboration sur un film?
Ça dépend des films, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas une seule manière de faire un film, donc il n'y a pas une seule manière de faire une musique. En tout cas, Monia Chokri, quel bonheur d'avoir croisé son chemin et de pouvoir travailler avec elle. C'est un laboratoire extraordinaire de pouvoir bosser avec quelqu'un d'aussi brillant et voilà, qui a une grande connaissance de toute cette musique-là qui me fait vibrer, celle des années 60 et 70. Et ouais, quel bonheur d'avoir pu faire ces deux films avec elle. Et en plus, ça va continuer parce qu'on travaille, on va travailler sur le prochain ensemble aussi. Non, c'est génial. On s'est rencontrés juste avant donc son deuxième film Babysitter,
qui est très rigolo.
Ouais, par l'intermédiaire de Cédric Laban, qui était mon batteur pendant longtemps avec Forever Pavot, qui était comédien sur un film. Ils se sont rencontrés et en discutant, ils se sont rendus compte que Monia adorait Forever Pavot. Elle a dit mais attends, j'aimerais vachement rencontrer Émile pour peut-être travailler avec lui. Et on s'est rencontrés et ça a matché tout de suite. En fait, elle a utilisé les bons mots très très rapidement. Elle m'a parlé de François de Roubaix, dont une BO qui est pour moi la meilleure de Roubaix, qui est Les Lèvres Rouges. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, elle me disait tout ce que j'avais envie d'entendre, quoi. Elle me disait, je veux vraiment qu'on aille dans cette direction-là. Et donc,
c'est un film de vampire.
Ouais, un film érotico.
Avec Daphne Seyrig.
Ouais.
Oui, exactement. Qui se passe à Ostende.
Exactement, ouais.
Oui.
C'est marrant parce qu'en plus, quand on a discuté avec Monia de cette BO, j'ai le souvenir de j'avais pas encore vu le film. Je connaissais la BO par cœur et tout ça, et j'avais pas vu le film parce que je pensais que c'était un AV. Et Monia m'a dit non, mais faut absolument que tu le regardes. Et en effet, quand je l'ai vu plus tard, j'ai adoré, quoi. Et donc voilà, donc ouais, trop trop heureux de pouvoir bosser avec quelqu'un d'aussi brillant et aussi génial, quoi.
Bah, de découvrir ce film. En tout cas, merci beaucoup, Émile Sornin.
Bah, merci à vous.
Votre album Melchior Volume 1 vient de sortir chez Born Bad Records, évidemment sous le titre du groupe Forever Pavot. Et vous serez en concert le 22 janvier à Bruxelles, le 28 janvier à Rennes, le 12 février à Paris, à la Maroquinerie, le 3 avril à Lyon. Et plein d'autres dates que je n'ai pas le temps de citer, mais qu'on peut trouver sur vos réseaux sociaux ou sur le site de votre label. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Gaspard Guy Bourget.